Le 25 août dernier, l'État allemand venait perquisitionner et mettre à sac le KTS, un espace autogéré autonome implanté à Freiburg depuis une vingtaine d'années, mais aussi 4 appartements de particuliers dans la ville. Quelques heures auparavant, le gouvernement démocrate chrétien de Merkel venait d'interdire la plateforme d'information partisane et collaborative Indie Media Link Sweden, lui permettant ainsi d'aller rafler légalement argent et matériel en tout genre chez les personnes qui hébergeaient ou administraient désormais illégalement le site tout nouvellement interdit. Le coup de filet semblait magique pour qui tient dans la même main les rênes de la police et de la justice. Rien pourtant, à la suite de la perquisition, ne vient confirmer les rumeurs lancées sur l'armement des autonomes. Seulement quelques tubes de fer et des lance-pierres sont trouvés. Ça n'empêchera pas les médias mainstream de relayer les mensonges du gouvernement pendant 3 longs jours, jusqu'en France où le journal Libération, le vendredi 25 août, titrait « Les autonomes allemands dans la tourmente », un article reprenant les communiqués du ministère de l'Intérieur allemand. En réponse à l'attaque, les autonomes de Freiburg appelaient à une grande manifestation samedi 9 septembre. On a interviewé un des protagonistes de l'histoire avant d'aller à la manifestation, où se sont retrouvés entre 500 et 700 personnes venues soutenir l'expression politique libre, surtout quand elle vient porter atteinte aux intérêts stratégiques et politiques d'un gouvernement comme celui allemand avant les élections législatives.
Alors salut.
Salut.
Alors, salut.
Salut.
Salut. Salut. Tu veux nous raconter un peu alors ce qui anime Freiburg et ses milieux autonomes?
Ouais, je peux faire ça, je peux essayer de résumer. On a eu des perquisitions en fait le vendredi 25 août suite à l'interdiction du site Indie Media Link Sweden par le ministère de l'Intérieur. Et le ministère en fait envoyé 250 flics de Stuttgart qui ont perquisitionné 4 appartements et l'espace autogéré KTS que vous voyez là. Ils ont confisqué beaucoup de matériel technique surtout, mais ils ont aussi volé un peu tout ce qui avait de la valeur. Ils ont volé pas mal d'argent, des documents. Ça a été plus un style hold-up. Et en fait, leur construction ou leur argumentaire, c'était Indie Media est une association et le siège de l'association se trouve ici, à l'espace autogéré, qui est en fait porté par une association et dont font partie diverses associations et groupes. Donc c'est une construction assez absurde, mais ils ont quand même volé le matos de tout le monde. Donc là, les dommages, juste purement infrastructure et matériel, sont plutôt grands. Donc ça nous anime beaucoup. Et il y a aussi bien sûr le travail antirépressif et le travail personnel avec les gens concernés. Ça a frappé assez dur pas mal de gens. Il y en a qui risquent de perdre leur taf, il y en a qui étaient en famille à la maison à 5h30 du matin. C'était une situation très tendue pour certains et je pense que c'est très central au travail qu'on fait maintenant tout de suite, soutenir les gens directement concernés et au-delà de ça, essayer de faire un travail politique, consolider l'espace autogéré ici et essayer d'échapper un peu à la propagande qu'a lancé le ministère en mode préélectoral et post-G20, de dire voilà, les extrémistes armés avec leur propagande pour fabriquer des bombes, il faut interdire et fermer tout ça. Ils ont trouvé des armes, mais c'était super ridicule. Ils ont trouvé quelques tubes, quelques lance-pierres et ils ont même présenté des aérosols de peinture, quoi. C'est vraiment une grosse construction. On pense pas trop non plus que c'était leur objectif primaire de faire ça, mais politiquement, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est ancré dans le discours médiatique. Et là, localement, on a des problèmes, mais c'est le cas aussi pour d'autres espaces autogérés. Je pense que là, ça a frappé Fribourg, ça aurait pu taper à peu près n'importe quelle autre ville. Après le G20, ça a été surtout la Flora, mais aussi la Rigueur 94 à Berlin, ou Coney Island, ou l'Excess à Francfort, le Café Mara à Munich, tous les espaces autonomes un peu établis depuis 20-30 ans qui sont quand même ancrés dans des mouvements sociaux qui ont une certaine réputation, qui font du travail politique important aussi de soutien aux prisonniers, de groupes de structures légal team d'antirépression, mais aussi bien sûr de mobilisation contestataire dans tous les domaines, écologistes, féministes ou anticapitalistes de tout genre. Et là, je crois qu'ils ont une bonne lancée. En fait, ils ont le spectacle joue un peu pour eux en ce moment. On n'a pas, en fait, peut-être ce qui s'est passé à Hambourg correspond pas dans son spectaculaire vraiment à l'ampleur de notre organisationnel. Et ça se voit maintenant. On a toujours, il y a 30 personnes en tôle là-haut. Ils sont en train de juger très 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 dur pour des faits relativement légers. Ils ont foutu une personne en tôle pour 31 mois qui a apparemment lancer 2 bouteilles sur des flics avec leur armure de 25 kilos, bon, ça, c'est pas directement une tentative de meurtre, quoi. Le camion fait quand même plus de 2 ans et demi de tôle maintenant. C'est un peu le... Je pense que c'est une ambiance, là, avant les élections, où le Parti chrétien-démocrate aussi essaie de grappiller des voix du côté droit du spectre politique. En fait, tous les partis sont dans cette mouvance et les chrétiens-démocrates vont maintenant avec de Mézières. Il y a Schuster ici dans la région et certains autres ultra-conservateurs, voire radicaux de la droite. Ils sont en train de profiter en fait du climat politique, de se préparer pour les élections en tapant sur nos structures.
Tu dis donc que c'est la préparation politique, enfin, c'est une stratégie politique politicienne dans le sens pour récupérer des voix, parce que l'élection qui va avoir lieu, c'est une élection qui est de quel type ?
Ce sont les législatives et il y a le Parlement qui va se former à nouveau et la chancelière Merkel qui va certainement reprendre le pouvoir qu'elle a déjà depuis les deux passages et demi passés là. Enfin, ça fait quoi, 10-12 ans qu'elle est en place et c'est ce qui va se prolonger certainement. Par contre, généralement, l'ambiance sociale ici, c'est ça va vers la droite, les partis fachos émergent et en fait les partis qui se disent centristes ont beaucoup intérêt à grappiller plutôt de ce côté-là qui est émergent, alors que les structures antifa ou enfin tous les mouvements sociaux de gauche sont relativement faibles et pas un objet très attractif. C'est pas là qu'ils vont avoir des électeurs, surtout que les gens qui sont plus à gauche ne vont pas voter du tout. Et donc c'est très opportuniste, en fait. C'est une stratégie là de se profiler comme État qui a de la force, qui a d'autorité, qui se fait respecter, qui applique la loi durement et par ce biais essayer de gagner des électeurs qui peut-être en alternative voteraient pour un parti fasciste, ouvertement fasciste.
Aujourd'hui, il se passe quoi ? Enfin, du coup, vous avez appelé à tout un tas de manifestations de solidarité aussi depuis voilà, le 25 août. Et aujourd'hui, vous avez prévu et organisé quelque chose à Freiburg d'un peu particulier, enfin, une journée de solidarité ?
Il y a une journée de soutien aujourd'hui. Il y a en fait la manifestation surtout qui va se tenir ce soir, où on espère qu'il y aura plein de monde et où on a un peu des amis qui participent de la région et de la région plus grande, on va dire, entre Stuttgart, Francfort, Dijon et la Suisse. C'est un peu, il y a eu de la mobilisation dans la de la France et en Suisse allemande qui est toute proche ici. Bon, ça va pas être une mobilisation d'envergure super spectaculaire avec des milliers de personnes, parce que pour ça le média et nos structures sont pas assez fortes et pas assez populaires. Mais en fait on veut placer un signe fort, on veut prendre le droit de manifester à nouveau aujourd'hui. C'est un peu ridicule parce qu'on se retrouve dans une logique à défendre les droits fondamentaux. C'était le cas à Hambourg, on a lutté pendant une semaine pour pouvoir manifester du tout et se faire taper dessus quand même. Ici là on est en train de se battre pour la liberté de la presse et en fait on réalise un peu que c'est pas du tout des acquis, ce sont peut-être des chances qui ont été pour lesquelles ont lutté des mouvements passés. Par contre, c'est pas la société ne va pas dans un sens libertaire, elle va pas dans un sens de qu'il y ait plus de structures ainsi solidaires et politiques aussi de lutte. C'est plutôt le contraire qui est en train de se passer. Donc là, on se retrouve un peu aux bases. On va encore manifester ce soir, bien sûr, sans poser la manif avant la préfecture, ce qu'on fait jamais à Fribourg par conviction anarchiste depuis 1967 d'ailleurs. Et c'est une tradition qu'on ne veut pas rompre. Par contre, en même temps, on peut s'attendre à une ville ultra fliquée. Pour le moment, la manif n'a pas été interdite à ce qu'on sache. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une ville très très fliquée où tout sera bloqué. Et, bon, il y a plusieurs approches en fait. On a un premier point de rendez-vous, il y en a un deuxième alternatif et on a un peu appelé un concept de groupes tandem et d'affinité qui soient capables de s'autogérer, de faire des actions un peu aussi indépendamment d'un gros cortège plutôt pas trop flexible, peut-être pas si dynamique ou peut-être aussi facile à contrôler. Mais on va essayer de foutre le bordel dans la ville entière, je l'espère, ce soir.
Qu'est-ce que représente l'indie média là qui est interdit, enfin, je veux dire, en termes d'outils de presse, de communication, de communication de liberté, enfin, émancipatrice, etc. C'est quoi le plot ?
En déjà une immédiat, c'est aussi un acquis ou un acquis là questionné des mouvements de anti-globalisation ou de pour une globalisation solidaire, ce que je préfère dire, parce qu'il n'y a pas que la. En français, c'est la globalisation, c'est toujours mauvais. Je pense que c'est une question quelle globalisation on veut faire. Et là, c'est celle des médias autogérés, celle du open posting, du open source, de gens qui peuvent s'approprier eux-mêmes les médias, devenir les journalistes eux-mêmes, rapporter de la rue, par le bas, parler des luttes sociales d'une perspective activiste et pas mené par des intérêts commerciaux, politiques, autres, mais genre une idée d'autonomie de la presse, c'est de ça que vient des médias. Ça fait plus de 20 ans que le réseau global est en place. Ça va et ça vient. Il y a plein de sites qui ont fermé, qui ont été aussi fermés par l'État, surtout dans les mouvements comme en Grèce où ça a bougé, ou en Argentine aussi il y a 15 ans. Et par contre, ça a toujours joué un très très gros rôle, certainement en Amérique du Sud, entre autres, où vraiment ça a été un outil pour la lutte, dans le sens où les informations, c'est une plateforme où les informations circulent, où les gens peuvent s'échanger directement. Bien sûr, il faut toujours revoir est-ce que c'est crédible ou pas. Par contre, c'est l'idée d'une ouverture du média et de la sphère Internet pour toutes. Et c'est ouf parce qu'en fait, ici, là, il y a le gros discours où ils vont comparer ça à Altermedia, qui était un forum facho. Par contre, c'était un forum fermé. Bon, déjà, politiquement, c'est pas comparable. C'est rendu facile par l'utilisation fréquente du terme extrémisme gauche-droite, parce que ça, enfin, je pense que c'est aussi une opportunité pour la politique de nous affaiblir en rapprochant les mouvements radicaux, ou en fait en finissant par faire une fusion entre les fachos, les islamistes et les antifas, parce que ce sont les extrêmes et c'est ce qu'on combat. Et bon, voilà, en fait, je vais un peu dévier, mais c'est très important, en fait, ce qui se passe maintenant, là, tout de suite. Indymedia était clairement une plateforme antifasciste. C'était un outil qui a beaucoup, beaucoup nui au AFD émergent ici, le parti facho, qui a vraiment combattu ça beaucoup. Il y a eu des leaks sur Indymedia. Il y a eu les participants avec toutes leurs adresses de divers congrès à Stuttgart et à Brême celui de 2015 et celui de 2016, qui étaient constitutifs pour le parti. Donc Indymedia, en fait, nous, on a fondé le site ici en 2008-2009, avant le sommet de l'OTAN de Strasbourg. Ça a été un outil aussi important où on a fait des suivis des actions, des manifestations. Ça a été un outil important pour le sommet de Strasbourg, surtout dans le monde germanophone, mais c'était aussi une technique plus moderne que les anciens Indymédias. Ça a été monté plus de 10 ans plus tard et ça a certainement permis une autre approche technique. On a travaillé avec Topal 9 à l'époque déjà, et c'était vraiment pour tout ce qui est audio, pour tout ce qui est image, pour tout ce qui est aussi outil de traduction. Ça a été plus utilisable, je dirais, que les pages années 2000, quoi. Et je pense que là, 9 ans de longévité, ou non, depuis 2008, ça fait 9 ans, voilà, c'est quand même pas mal. Et le média, en fait, a évolué, a été utilisé d'abord dans la région et aussi un peu internationalement, mais après, en fait, comme l'Indymedia allemand centralisé était pas trop bien en place et pas très utilisé, et Linksunten était plus attractif aussi par le forum que c'était, les différentes villes en Allemagne de l'Est, dans le Nord, de partout, aussi en Autriche et en Suisse, parce que Indymedia Autriche et Suisse sont morts aussi dans les dernières années, ont commencé tous à utiliser Indymedia Linksunten. Et je pense que ça a été l'un des sites Indymedia les plus utilisés, à côté de IndieBay. Il y a Chile qui a été beaucoup utilisé, il y a Estrecho qui a été très actif à un moment, et il y a IndieAthènes qui, je pense, est vraiment l'Indymedia le plus actif de toutes. Il y a Bruxelles aussi qui joue un peu, mais voilà, il y a peut-être une demi-douzaine de sites Indymedia qui s'arrêtent pas à un millier d'utilisateurs, mais qui vont genre dans des gros chiffres et qui font en principe aussi comme moyen de communication, certainement à un certain niveau, concurrence aux médias plus guidés par des intérêts politiques ou commerciaux. Et donc je pense que c'est réellement bâtir du pouvoir par le bas, s'approprier ces médias. Je pense que c'est le cas aussi de la radio. En même temps, je suis critique là-dessus parce que on constate aussi une grosse emprise de cette technologie. Là, on le voit tout de suite avec que la plateforme n'existe plus, ça nous pose beaucoup de nouvelles questions. Comment on communique maintenant? Est-ce qu'on reprend les tracts? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'il y a de la communication directe qui s'établit? Qui parle avec qui et comment? Et comment on se réapproprie en fait une organisation au-delà des sphères Internet uniquement? Donc c'est les questions en fait qui se posent. Tu commençais l'interview par la question qu'est-ce qui occupe les activistes de la scène autonome ici. Je pense que c'est ça, se mettre en question après cette grosse attaque sur nos structures et sur ces médias, comment continuer de fonctionner, comment bâtir de nouvelles choses, comment voir assurer un futur pour Indie Media ou trouver d'autres moyens pour communiquer de manière plus efficace et nous organiser mieux. Plus bien sûr toute l'anti-répression, c'est peut-être le truc pour finir. Ils ont vraiment volé des dizaines de milliers d'euros en matos et en thunes. Et en fait là c'est ce qui doit se faire avec des procès qui arrivent, c'est rassembler des thunes. Il y a un appel à dons au Secours Rouge International, le groupe de Stuttgart, Rotehilfe Stuttgart, où il y a des dons qui peuvent être faits pour Linksunten. Et voilà, on est là tout de suite en train d'espérer de déjà ranger tout, de que la répression ne continue pas ou s'amplifie pas trop rapidement, trop vite par la suite, parce que bien sûr là je pense que des données ils en ont pas beaucoup, ils n'ont pas non plus conséquemment tout pris ce qu'ils pouvaient. Par contre dans la somme la frappe a été dure et je pense que là maintenant c'est espérer qu'il y ait assez de solidarité pour tenir le coup et continuer et bâtir de nouvelles luttes, quoi.
Vous allez être donc dans la continuité d'organiser des manifestations de soutien de ce type et d'étendre ça un peu. Tu disais là, vous avez les stratégies un peu à court terme qui sont de répondre à la répression, enfin de faire face à ça, de retrouver des moyens de communication, etc. Et peut-être de remettre en route cet Indie Media, enfin aussi, voilà.
Mais il y a certainement le long terme aussi. Enfin, je pense que aussi bien la répression que la question du futur d'Indie Media ou des espaces comme celui-ci, c'est des luttes à long terme, bien sûr. Je pense qu'un biais intéressant va être la question est-ce que là ça s'arrête aux électorales ou après les élections, est-ce que ça va s'amplifier, ça va continuer, qui sera au pouvoir et est-ce qu'ils vont renforcer la lutte contre cette dite ultra-gauche, je sais pas quoi, ou est-ce que ça va se calmer un peu, on peut pas l'estimer pour le moment. Moi je pense qu'on a fortement intérêt à se coordonner plus, à faire aussi du travail au-delà des régions. C'est bien sûr il y a du taf là localement, mais je pense qu'on a vraiment beaucoup intérêt à s'échanger aussi avec les autres espaces menacés, d'essayer de faire des forums, de faire un échange avec les gens qui ça concerne. C'est ça, ça nous a tapé ici, mais tout le monde est concerné. Et en fait, la lutte à long terme, je pense que c'est aussi avec des réseaux qu'on va pouvoir la mener. Et c'est aussi en communalisant les problématiques que nous rencontrons ici, et en les partageant et en partageant la responsabilité et tout ce qui va avec nos amis de loin et de près.
Tu disais qu'il y avait pas mal de médias bourgeois ou pas officiels qui reprenaient actuellement des trucs d'Indie Media pour les mettre dedans et que c'était une page qui était de plus en plus visitée. Est-ce que par exemple ça peut être un truc qui a joué sur justement ce coup de force de l'État je veux dire, en fait, là, il est trop visité, et même si, en plus, il est repris par les médias traditionnels.
Bah, il y a eu beaucoup de critiques aussi de la part par exemple, des Journalistes sans frontières ou des groupes de journalistes critiques d'un milieu forcément très, très radical qui ont critiqué ça, bien sûr, parce que les médias est devenu une source aussi pour la recherche journalistique normale, entre guillemets. Et ça me flatte un peu de penser ok, le média est devenu puissant donc ils l'ont fermé. C'est un peu Sun Tzu ou ce qu'il veut Mao, si l'ennemi te frappe fort c'est qu'il te prend au sérieux, quoi. Après on peut pas trop rapidement tirer de la force de ce genre de constat. Si je pense que clairement on a commencé à poser problème. C'est clair qu'un média sur 9 ans qui s'établit, qui est lu en temps de sommet par beaucoup de milliers de personnes, peut-être plusieurs dizaines de milliers de personnes, et où des infos sont relayées qui ne sont pas du tout produites par les agences, qui ne sont pas du tout contrôlées par des rédactions, qu'elles soient corrompues ou pas, ça, je pense que c'est clairement aussi un succès politique. Si on constate là, Indy le ferme parce que c'est devenu un peu trop puissant ou un peu trop menaçant aussi pour ce qui est de notre participation, de notre impact dans le monde médiatique et dans les débats et l'opinion publique. Je pense que ouais, c'est ça en fait, c'est peut-être pour ça qu'on est beaucoup surpris. On se prend jamais trop au sérieux dans nos petits mouvements, dans nos petites organisations, et peut-être là on a carrément monté aussi un outil qui était à prendre au sérieux, et donc on espère qu'on remettra en place des choses similaires très bientôt.
Alors salut.
Salut.
Salut. Salut. Tu veux nous raconter un peu alors ce qui anime